Il est 17h à Niamey. Bienvenue dans le journal en français du studio Kalangou de ce jeudi 2 décembre 2021. Au micro, Michel Dégé. Le sommaire de cette édition, la plus grande partie des ressources mobilisées au nom du Niger échappe au contrôle de l'État, a déclaré hier Mohamed Bazoum à l'endroit des responsables des organisations non gouvernementales et associations de développement, à suivre le président de la République dans ce journal. Une demande d'interpellation des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale est introduite au Parlement nigérien par deux députés de l'opposition. Ils souhaitent la lumière sur les événements survenus à Téra le 27 novembre dernier. Dans la partie magazine de ce journal, nous parlerons des difficultés à faire respecter des gestes barrières contre la COVID-19 dans les compagnies de transport terrestre au Niger. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a rencontré hier après-midi les responsables des organisations non gouvernementales et associations de développement. Mohamed Bazoum a déploré le non-respect souvent par certaines ONG des dispositions légales et réglementaires encadrant leurs activités malgré l'importance et la pertinence de leurs interventions au Niger. Le président de la République, Bazoum Mohamed.
En 2020, seules 29 ONG ont publié leurs sources de financement. Les services compétents relèvent également que peu d'ONG et d'associations de développement respectent les règles en matière de passation de marché et du quota de personnel nigérien dans le cadre de recrutement aux postes de coordination au sein des ONG étrangères. En somme, le faible niveau de transparence qui prévaut au sein de plusieurs ONG et associations de développement, cumulé au manque de traçabilité des ressources mobilisées, ont fait que, d'une part, la plus grande partie des ressources mobilisés au nom du Niger, échappent au contrôle de l'État et d'autre part, l'alignement des interventions de ces acteurs aux priorités nationales et locales devient peu lisible.
Propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale. Deux députés du mouvement patriotique nigérien, MPN Kishinkasa, un parti de l'opposition, ont introduit à l'Assemblée nationale le 30 novembre 2021 une demande d'interpellation des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale. Selon Aliyu Namata, co-auteur de l'interpellation, c'est pour faire toute la lumière sur les événements survenus le 27 novembre à Téra, dans la région de Tillabéri. Aliyu Namata, député national, jointe au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Ce que les Nigériens veulent, demandent, c'est la protection et la sécurité. Mais ils ont reçu en retour des balles. Et dans une telle situation, c'est tout à fait normal que l'Assemblée nationale ou les députés, dans leur rôle de contrôle de l'action du gouvernement, demandent ou interpellent les ministères en charge de sécurité et de la défense nationale qui sont responsables l'armée et des forces de défense et de sécurité de façon générale pour expliquer aux Nigériens ce qui s'est passé. D'abord, pourquoi tirer sur des Nigériens avec des balles réelles? Parce que juste manifestent ou protestent. Et deuxièmement, qui a tiré sur les Nigériens de façon aussi grave? Qui a donné l'ordre de tirer? Et qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour rendre justice par rapport à ce qui s'est passé, pour que de tels actes ne se reproduisent plus au Niger?
Le Niger et la Norvège ont fait voter le 29 octobre 2021 au Conseil de sécurité des Nations Unies la résolution 2601 exclusivement consacrée à la protection de l'éducation dans les conflits armés. Les deux pays ont estimé que fournir, protéger et faciliter la poursuite de l'éducation lors des conflits armés devrait rester une priorité essentielle pour la communauté internationale. Dans la région du Sahel, le délégué du Niger, Abdou Abari, a déclaré qu'avec la fermeture de près de 5000 écoles du fait de la crise sécuritaire et des attaques perpétrées par les groupes terroristes, ce sont plus de 700 000 enfants qui se retrouvent privés d'école, avec plus de 20 000 enseignants n'ayant plus la possibilité d'exercer leur métier. 16 boutiques brûlées, c'est le bilan d'un incendie survenu hier soir au marché de Tawa. En attendant l'évaluation des pertes subies par les commerçants, le gouverneur de la région appelle ces derniers à plus de prudence dans la sécurisation de leurs marchandises. Issa Moussa au micro d'Abdoulaye Aoussouk.
Nous sommes venus ici suite à un incendie qui s'est déclaré et qui a consumé jusqu'à 16 boutiques. Nous sommes en train de faire l'évaluation en termes de coûts de ce que les commerçants ont perdu. Mais déjà à ce niveau, je vais présenter vraiment mes regrets à tous ceux qui ont été victimes de cet incendie et demander aux uns et aux autres. Nous abordons une période, la période où l'harmattan est en train de souffler très fort. Nous devrons être prudents. Il faut faire en sorte que quand on quitte une boutique, que toutes les installations soient débranchées de façon à ne laisser aucune possibilité de déclenchement d'une étincelle. Nous sommes en train de constituer le capital qui va permettre de créer la société qui va gérer le marché. C'est vrai, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas réglées avec l'entreprise, mais les pourparlers sont en train d'être faits en rapport avec le ministre du Commerce pour que très bientôt le marché s'ouvre. Et c'est pourquoi justement parallèlement, on engage la procédure de la constitution du capital qui va nous permettre de créer la société qui va gérer le marché.
L'ambulance du centre de santé intégré CSI du village de Zanei, situé dans la commune rurale de Kokoro, région de Tillabéri, a été brûlée hier vers 15h par des hommes armés non identifiés, selon une source locale contactée ce matin par le studio Kalongo. La source précise que des hommes armés étaient venus sur 4 motos pour mettre le feu à l'ambulance dans la cour du CSI. Cette incursion des hommes armés a sémé la psychose au sein des habitants et commerçants qui étaient venus pour le marché hebdomadaire du village qui s'anime chaque mercredi, indique la même source. Au Niger, depuis près de 2 ans, un comité pluridisciplinaire de pilotage contre la pandémie de la COVID-19 est en place. Ce comité s'est réuni hier au CERMES, Centre de recherche médicale et sanitaire à Niamey, pour dresser un bilan de la lutte contre la pandémie. Dr Ronan Jambou, directeur scientifique du CERMES, au micro de Talata Abdou Bahar.
Depuis le début de la crise, il y a un comité de coordination nationale pour la prise en charge et la lutte contre Covid, donc qui implique tout le monde, depuis le SAMU, les hôpitaux, le CERMES, la direction des vaccinations, donc tout le monde est présent et on se réunit effectivement très régulièrement. Le bilan, c'est que actuellement, ce qui a relativement bien fonctionné, c'est la mise en place de tout le réseau de diagnostic dans le pays, puisque maintenant, il y a près d'une trentaine de machines gene expertes qui permettent ce diagnostic. Maintenant, le grand enjeu, c'est que la vaccination soit mise en place. Il y a des stocks de vaccins au niveau ici du ministère, mais certains sont en train de se périmer parce que il n'y a pas suffisamment de personnes qui veulent se faire vacciner. On est à peine à 6% de couverture, donc il faut effectivement que la campagne de vaccination s'intensifie et que les gens se fassent vacciner.
Après l'ouverture du FIMA hier dans la matinée à Niamey, dans la soirée, le Festival international de la mode africaine FIMA a débuté avec la nuit nigérienne au stade général Seyni Kounche. 20 stylistes nigériens ont présenté leurs créations mettant en valeur la mode nigérienne. Après le défilé, le public présent donne ses impressions au micro de Rabia Meikano.
Vraiment, j'apprécie beaucoup, j'ai trouvé ça vraiment innovant. D'année en année, je vois qu'il y a plus de stylistes qui osent, qui prennent vraiment des risques. Je les encourage par rapport à ça. C'est vraiment magnifique leur collection.
C'est une très belle chose, une belle soirée. Cette première journée du FIMA, c'est l'occasion pour nous autres de découvrir le talent de nos créateurs. Ces jeunes qui s'efforcent de remettre au goût du jour certaines cultures qu'on aurait conjuguées au passé, aujourd'hui, on les conjugue au présent. C'est vraiment magnifique et on s'éclate. Nos yeux, en tout cas, arrivent à découvrir beaucoup de belles choses. On espère que ça puisse être de même pour les prochains jours de ce FIMA.
C'est la première édition à laquelle je participe. Alors, je suis émerveillée, c'est extraordinaire. J'ai même envie de porter leur tenue pour vous dire combien j'aime. J'en ai plein la vue et j'ai qu'une hâte, c'est de retourner vers le podium.
Du sport à présent, à l'instar de la lutte traditionnelle du Dambé, du Tchogo, le Langa, communément appelé cloche-pied, est un sport traditionnel nigérien. Il se pratique de manière collective ou en individuel. Les joueurs se tiennent sur un pied, le second étant dans la main opposée, servant de prise. Lawal Abdou, président de la Fédération nigérienne de Langa, explique les nouvelles règles introduites dans le jeu. Il est au micro de Salamatu Kadri.
Le Langa, c'est un sport de combat parce qu'il regroupe toujours deux équipes qui se rivalisent dans le but de marquer le plus grand nombre de points dans un temps imparti. Le Langa est pratiqué dans toutes les régions du Niger depuis la nuit du temps. C'est un jeu qui se pratique à la place du village, là où les jeunes faisaient l'étalage de leur force physique, de leur bravoure et de leur technicité sous les applaudissements des sages et les chansons des jeunes filles. Il y a eu l'organisation du premier championnat, en tout cas, que nous avons pu réaliser à Difa. On a fait un deuxième championnat à Zander et nous avons toujours participé aux festivités entrant dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre. C'est un sport qui vient de démarrer, qui n'a pas de sponsor réellement, puisque c'est un sport tout court qui permet à la jeunesse de s'affirmer.
Parti Magazine à présent, dans les compagnies de transport terrestre, faire respecter les gestes barrières et assurer la prévention contre la COVID-19 n'est pas chose facile. Abdulaziz Mabila, directeur général adjoint d'une compagnie de transport à Niamey, déclare que la difficulté viendrait surtout des voyageurs ruraux qui, selon lui, ne sont pas bien informés sur cette maladie. Il est interrogé par Rafika Attaher.
Au sein de votre compagnie de transport, comment arrivez-vous à faire respecter les mesures barrières contre la COVID-19?
Les passagers que nous transportons, la plupart viennent des zones rurales. Et on sent vraiment que la sensibilisation par rapport au COVID n'a pas passé dans ces zones rurales. Une fois que ces passagers se retrouvent dans nos locaux ici, on leur propose des masques premièrement. Nous avons des dispositifs de lavement de mains et des gels qu'on propose aux passagers. Et d'ailleurs, il y avait eu même des équipes de vaccination qui étaient de passage. Ceux qui ont eu l'occasion de voyager en ce moment-là ont pu faire cette vaccination.
Le port du masque est-il obligatoire dans les bus?
Dès que vous venez au guichet payer votre billet voyageur, c'est écrit et on vous le rappelle aussi que le masque, il est obligatoire afin de respecter ces mesures barrières.
Est-ce que vous vous rassurez qu'une fois sur la route, les mesures barrières sont respectées?
Sur la route, c'est des chauffeurs qui sont à bord. On ne peut pas malheureusement mettre une équipe de contrôle tout juste dans le bus pour nous assurer que ces passagers respectent ces mesures barrières, mais les chauffeurs font de leur mieux. Mais il y a des gens qui sont sensibilisés, qui le font. Mais on ne peut pas dire que tous les passagers respectent ce genre de comportement. Quant à nous, c'est juste à l'embarquement. On sensibilise, puis on leur souhaite un bon voyage.
À l'embarquement de vos bus, par exemple à l'extérieur, les voyageurs sont-ils aussi soumis à un contrôle pour rentrer au Niger?
On conseille aux gens d'aller se vacciner d'abord et en plus respecter ces mesures barrières. Surtout, il y a des pays qui sont plus exigeants que le Niger en matière de port de masque.
Êtes-vous souvent confronté à des passagers difficiles qui refusent de respecter les gestes barrières?
Bien sûr qu'on est confronté à ce genre de situation. Par exemple, je me rappelle, un client était venu une fois. Avant de payer, la première question qu'il m'a posée, est-ce que ici la vaccination est obligatoire? Je lui ai dit que non, ce n'est pas obligatoire. Cela veut dire que ce client, si cette vaccination était obligatoire, en tout cas ici chez nous, il n'allait pas voyager parce qu'il n'est pas prêt pour le faire. Et il y a des gens aussi qui font comme si cette maladie n'existe pas.
Au rythme du Niger. Merci d'avoir suivi ce journal en français du studio Kalangou. Le programme continue. Bonne écoute.